France Culture. France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
Dans les coulisses des COP de Copenhague en 2009 à Belém en 2025, qui tire les ficelles et comment se décide notre avenir? À l'aube de l'ouverture de la COP30 au Brésil, programmée du 10 au 21 novembre, à Belém, aux portes de l'Amazonie, lieu hautement symbolique, et 10 ans après l'accord de Paris obtenu en 2015, regard, confidence et expertise de nos deux invités sur les acquis de ces conférences des parties, sur ce qu'elles représentent et sur ce qu'il reste à engager pour réussir dans la lutte contre le réchauffement climatique. Avec nous, depuis le Brésil, Laurence Toubiana. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je sais combien votre agenda est chargé. Vous êtes présidente et directrice générale de la Fondation européenne pour le climat et envoyée spéciale Europe de la présidence de la COP30. À vos côtés, Emmanuel Guérin. Bonjour.
Bonjour.
Merci aussi d'être avec nous, expert géopolitique du changement climatique à la Fondation européenne pour le climat et vous êtes également à l'Institut brésilien ICS et tous les deux auteurs du livre « Le climat est un sport de combat », un livre très éclairant paru chez Albin Michel. Bienvenue à tous les deux, bienvenue à nos auditeurs dans le magazine de l'environnement de France Culture. Nous sommes en direct, nous sommes en partenariat avec le journal Le Monde et merci aussi à Célestine Babinet à mes côtés pour la préparation de l'émission avec la collaboration de Aurélie Marcet, Vanessa Chang, Pierre Pinault de Lina et Eva Canneparo. Émission réalisée avec minutie par Alexandra Malka avec Alecté à la technique, Alexandre Dang.
Il y a des années, dans les années 1920, dans les années 1930, d'aucuns ont dit que le refroidissement allait tuer le monde et qu'il fallait faire quelque chose. Et ensuite, ils nous ont parlé du réchauffement climatique. Ils ont dit que cela allait tuer la planète. Et aujourd'hui, on parle de changement climatique. C'est le changement climatique. Voilà ce dont on parle aujourd'hui. Peut-être que c'est le refroidissement, peut-être que c'est le réchauffement, on ne sait pas. Ils nous parlent du changement climatique. C'est la plus grande escroquerie de l'histoire de l'humanité, selon moi. Le changement climatique. On nous parle sans cesse du changement climatique. On ne nous parle plus du refroidissement ou du réchauffement. Ce sont des prévisions qui avaient été faites par l'ONU et d'autres, souvent pour des raisons erronées, et tout cela s'est avéré faux. Ce sont des personnes stupides qui ont formulé ces prévisions. Cela a coûté des fortunes à leur pays, et cela a garanti la ruine de ces pays. Donc je vous conseille de vous éloigner de cette supercherie écologique, sinon vous allez faire faillite. Et croyez-moi, je m'y connais en la matière, et je l'ai dit pendant la campagne. Il y avait une casquette que beaucoup de mes partisans portaient, une casquette qui disait « Trump avait raison sur tout ». Et je ne dis pas ça pour me vanter, mais c'est vrai. Donc vous devez laisser de côté cette supercherie écologique, sinon vous êtes voué à la faillite.
La COP30 se déroule cette année à Belém au Brésil et la situation n'a rien à voir avec les précédentes. Vous venez d'entendre Donald Trump, un extrait de son discours donné à la tribune de l'ONU et diffusé sur France 24 le 23 septembre 2025. Donald Trump réélu le 6 novembre 2024. Première élection, c'était en novembre 2016. Donc des États-Unis plus que jamais hostiles et un président américain qui a qualifié le changement climatique de plus grande arnaque jamais menée. Laurence Toubiana, un handicap peut-être pour la COP30, pour ce démarrage?
Que cette déclaration très agressive de Donald Trump marque une nouvelle période. Les États-Unis, pour la deuxième fois, donc, sortent de l'accord de Paris. Mais là, il ne s'agit plus seulement de sortir, mais d'attaquer directement chaque pays quand c'est possible, en menaçant d'ailleurs de menaces commerciales, ceux qui veulent encore se battre pour améliorer et se battre contre le changement climatique. Alors pourquoi ? Ben, la seule manière pour Donald Trump de faire ça, c'est de supprimer les données du climat, supprimer et arrêter le satellite météorologique qui permettait de comprendre ce qui se passait en matière d'émissions de gaz à effet de serre, et de fermer ou d'attaquer tous les laboratoires de recherche qui s'intéressent à ça. Donc, l'escroquerie, en fait, c'est de ne pas vouloir regarder ce qui se passe, alors que le territoire américain est particulièrement affecté par l'impact du changement climatique, que ce soit en Californie ou en Floride. Donc, c'est une attaque pour supporter le secteur pétrolier et gazier des États-Unis et il en fait maintenant une arme politique tout à fait agressive.
Effectivement, ce président américain qui relance les énergies fossiles détricote la plupart des politiques climatiques de son prédécesseur Joe Biden, met fin au financement des énergies renouvelables d'un montant de 27 milliards. Drill, baby, drill, fort, bébé, fort, c'est vraiment son slogan. Emmanuel Guérin, Donald Trump n'enverra pas de représentants de haut niveau à Belém. Et le président américain avait, dès son élection, annoncé la sortie des États-Unis de l'accord de Paris avec un préavis d'un an. Ils en font encore partie. Mais une centaine de représentants américains, des élus, des maires, des gouverneurs seront bien présents quand même.
Oui, absolument. D'ailleurs, aujourd'hui, on vous parle de Rio, où a lieu le sommet des maires et des gouverneurs qui précède la COP. Et ce qu'on voit ici est assez formidable de résolution et de détermination, parce que vous avez tout un tas de maires et de gouverneurs américains qui s'oppose très fortement à la politique qui est conduite au niveau fédéral par Donald Trump et par son administration et qui disent très clairement qu'ils ne se laisseront pas intimider, qu'ils n'ont pas peur et qu'ils sont en train de mettre en œuvre des politiques climatiques qui pour partie d'ailleurs vont compenser l'absence de politique climatique au niveau fédéral. Donc c'est bien sûr un signal très important qu'il soit là et je dois dire que ça fait partie des choses qui font chaud au cœur et qui donnent beaucoup d'énergie pour la COP qui s'annonce.
Et précisons peut-être que historiquement les États-Unis ont soufflé le chaud et le froid selon le président à la tête du pays.
Absolument. Ce qu'on a vu aux États-Unis, c'est une vraie politique bipolaire sur la question climatique, parce que à chaque changement d'administration, en tout cas en passant d'Obama à Trump, à Biden, puis à nouveau à Trump, on a vu des grands revirements qui n'aident pas du tout sur la stabilité du cadre réglementaire qui permet aux entreprises et aux investisseurs de faire de la transition énergétique et climatique une opportunité économique. Et je dois dire d'ailleurs que les coups de boutoir de l'administration Trump contre la politique climatique n'ont d'égal que la vigueur avec laquelle Biden avait essayé de reprendre le bâton quand il est arrivé au pouvoir. Donc c'est bien sûr un gros problème, cette politique bipolaire, mais c'est la situation à laquelle on est confronté et c'est pour ça qu'il faut se battre aujourd'hui.
Et cette situation, Laurence Toubiana, on peut parler d'un retour des empires, les États-Unis, la Russie, la Chine, avec de nouveaux équilibres qui se mettent en place. Vous devez, vous, sur place, aussi penser et agir avec ces relations internationales basées sur le rapport de force et le cynisme ?
Et oui, c'est peut-être ce qui nous sépare de l'atmosphère qui régnait quand même en 2015 lors de la COP21 où on a eu surtout dans le déroulé et à la fin la réalisation qu'on pouvait s'entendre au-delà de la compréhension étroite des intérêts nationaux et qu'il y avait une communauté humaine qui pouvait quand même se mettre d'accord, être solidaire vis-à-vis d'un danger majeur et qui nous concerne tous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le conflit de puissance règne absolument avec des démonstrations de force militaire, politique, de menace, une espèce de guerre froide renouvelée qui aujourd'hui, évidemment, préoccupe beaucoup les gouvernements, ce qui fait que le climat, qui est un problème collectif, souffre de cette organisation, si on peut dire, des rapports de force internationaux. Alors, c'est vrai, en même temps, il faut rappeler que, oui, c'est ce qui se passe dans les relations entre les gouvernements. Et il y a évidemment, depuis particulièrement l'invasion de l'Ukraine, une reprise en main du discours sur la sécurité énergétique du secteur pétrolier, gazier, du charbon. Et du coup, on n'entend plus que ces voix-là de la puissance et de la sécurité, mais au sens vraiment le plus traditionnel du terme. Alors que les impacts du changement climatique coûtent, non pas demain, mais aujourd'hui, de plus en plus cher. Et en même temps, il y a un sondage très intéressant du Programme des Nations Unies pour l'environnement qui vient de sortir il y a peu de temps, qui montre que 80% des citoyens dans le monde, le sondage a été réalisé sur 125 pays, disent qu'ils sont très préoccupés du changement climatique et qu'ils veulent des actions. Donc, il y a une dissociation entre l'obsession aujourd'hui des gouvernements, des rapports de force, au fond de cette atmosphère de guerre économique, politique, et le sentiment des citoyens. Et c'est ce décalage sur lequel je crois qu'il faut fonder quand même de l'espoir. Mais oui. On y reviendra peut-être tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Une poussée de la société civile, même si durant les deux dernières COP, à Bakou et à Dubaï, cette société civile a été mise à l'écart. Et en même temps, je sais combien, et on aura l'occasion d'en parler, combien sa position et son retour doit être plus que jamais envisagé. C'est le retour des empires. Une situation, alors en Europe, avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, du côté des États-Unis, les États-Unis qui finalement considèrent l'Europe comme un nouvel ennemi ou un autre ennemi en plus de la Chine, et un Donald Trump qui montre tous les outils des démocraties devenues illibérales avec cette volonté d'annexer le Groenland, le canal de Panama, de faire du Canada le 51e État des États-Unis. Il ne s'agit pas de tout brosser en noir, mais de aussi, vraiment partir du tableau tel qu'il est aujourd'hui pour montrer comment on peut malgré tout jouer sa carte, et celle que vous allez tenter de jouer l'un et l'autre sur place à Belém. Et donc bien sûr l'Europe, concrètement l'Europe, le pacte vert européen, adopter les politiques de l'UE en matière de climat, d'énergie, de transport, de fiscalité, avec des enjeux quand même, si je ne me trompe pas, c'est réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici à 2030 et par rapport au niveau de 1990. Cette Europe aujourd'hui, comment elle se situe dans un nord global qui n'existe plus, avec un camp occidental en fait qui a volé en éclats? Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide petit point peut-être pour bien comprendre comment l'Europe et la France peuvent jouer et avec quel type d'alliance peut-être nouvelle?
Oui, bien sûr. Alors déjà, au moment où on se parle, se réunit le Conseil européen des ministres de l'environnement. Et c'est un conseil particulièrement important, puisque c'est aujourd'hui que doit se décider à la fois la prochaine loi climat européenne, avec l'objectif de réduction d'émissions pour 2040, dont on espère que ça sera un objectif de réduction des émissions de 90% par rapport à 1990, et aussi le point de passage en 2035, dont on espère qu'il sera de 72%. Alors, le fait que l'Union européenne soit tellement en retard pour présenter sa contribution à la COP de Belém, objectivement crée de très grandes difficultés pour le leadership européen. C'est d'ailleurs ce qu'on observe en parcourant le monde, non pas comme officiel européen, mais tout de même comme citoyen européen. Et je dois dire que pour nous, c'est un motif d'inquiétude. D'inquiétude parce que, en étant tellement en retard et en faisant tellement l'étalage de ces divisions internes, l'Europe a perdu une partie de son leadership climatique international. Et puis, bien sûr, tout ça se passe dans le tableau géopolitique plus général, où, objectivement, ce qui a fait beaucoup de mal à l'Union européenne, c'est cette photo de la réunion entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président américain Donald Trump. Oui. Moi, je passe la moitié de ma vie au Brésil. Je suis très souvent en Chine, en Inde et en Afrique du Sud. Et je peux vous dire qu'il y a eu une grande déception de ces pays émergents qui jouent la confrontation avec les États-Unis. Et qui ont vu dans l'Europe une forme de conciliation avec les États-Unis sur la question commerciale, alors beaucoup expliquée par la question sécuritaire, mais le leadership climatique européen est vraiment à reconstruire parce qu'il est contesté aujourd'hui, et donc c'est ce qui va devoir être fait par l'Europe pendant cette COP à Belém.
Laurence Toubiana, vous voulez ajouter quelque chose peut-être ?
Oui, c'est très préoccupant. En partie, comme nous disions tout à l'heure, l'invasion de l'Ukraine a offert une opportunité à tous ceux qui finalement ont dû accepter le pacte vert, mais avec réticence. En même temps, il faut quand même reconnaître que depuis 1990, l'économie européenne, elle a progressé de 68%. Le PIB européen a augmenté de 68%. Dans le même temps, on a diminué nos émissions de 40%. Donc, c'est pas une recette pour la pauvreté, c'est une recette pour le développement économique. Donc, la preuve a été faite de la capacité de l'Europe à décarboner son économie. Mais à cause de cette invasion de l'Ukraine, et au moment, et c'était très intéressant parce que en 2021, à Glasgow, le secteur pétrolier, gazier, du charbon, on a eu d'ailleurs les premières idées de commencer à parler de la transition hors des fossiles déjà à ce moment-là. Ça a été contesté en 2021, mais ça a été repris ensuite à Dubaï, donc 2 ans après, avec l'idée que, au fond, ils devaient faire des efforts, ils devaient investir dans les énergies renouvelables, ils devaient prendre des engagements pour décarboner leur secteur, enfin, pour beaucoup de promesses. Et puis, cette invasion de l'Ukraine a redonné évidemment des couleurs, comme je le disais tout à l'heure. Et du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont engagées, ceux qui n'avaient pas tellement envie, l'industrie de l'automobile allemande, par exemple, ou d'autres, en disant, bon, mais au fond, on peut détricoter ce pacte vert. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les régimes illibéraux comme la Hongrie, une réticence quand même à cause des élections de la Pologne ou de la Tchéquie aujourd'hui, se disant, ben, au fond, on va en profiter pour tout détricoter. C'est ce qui se joue en ce moment, aujourd'hui d'ailleurs, dans le Conseil des ministres de l'Environnement et du Climat. Mmh. Moi, j'ai bon espoir quand même parce que la raison voudrait, alors que tout le monde regarde l'Europe, on entend souvent dire, et les émissions européennes, qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas d'importance, c'est très petit par rapport aux émissions de la Chine, des États-Unis ou de l'Afrique du Sud. Mais en réalité, tout le monde nous regarde. Oui. Et ce que disait Emmanuel tout à l'heure, c'est qu'à chaque hésitation de l'Europe, tout le monde se dit, mais alors c'est que c'est pas possible de le faire. Et la démonstration européenne, c'est qu'on peut le faire sans souffrir économiquement, mais et en même temps en montrant les solutions. Et donc c'est ça qui se joue, et c'est inquiétant parce que je trouve que les gouvernements sont hésitants. Mm-hmm. La Commission européenne essaye quand même de le faire. Ursula von der Leyen, quand même à New York, a réaffirmé la direction où on devait aller. Mais il y a beaucoup de pression des différents gouvernements. Le Parlement européen est allé vers la droite, à l'extrême droite, et l'extrême droite, elle se saisit du sujet du climat exactement comme le fait Donald Trump. Ah oui. Et c'est une vraie contamination du débat européen qui nous vient des États-Unis et, en même temps, malheureusement, on est pris en sandwich de la Russie.
Alors, on le comprend, hein, c'est une période particulièrement difficile, confuse. En même temps, j'ai envie de citer ces deux phrases que vous mentionnez dans votre livre, hein, celle d'Antonio Gramsci dans Les cahiers de prison. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Mais il y a aussi cette citation à suivre de Lennart Meri, ex-président estonien. La situation est merdique, mais c'est notre engrais pour l'avenir. Alors, je vous propose, justement, pour bien comprendre là, peut-être ce qui se joue aussi pour après, c'est quand même un retour dans le passé, retour sur les COP précédentes qui sont vraiment des leçons aussi dont il faut tenir compte, la COP par exemple de Copenhague, et donc voir justement ce qui vous amène encore à y croire et à vous battre. Allez, retour à Copenhague, extrait d'un document diffusé sur l'AFP le 7 décembre 2009.
The world is depositing hope with you.
Vous êtes les dépositaires des espoirs du monde entier pendant ces 15 prochains jours. Copenhague va être le creuset des espoirs de l'humanité. À la fin de cette conférence, nous devons avoir trouvé des solutions pour améliorer l'avenir de toute la planète.
Pendant 11 jours, 192 pays tenteront de trouver un accord limitant à 2 degrés la hausse moyenne de la température de la planète. La conférence a débuté sur la projection d'un court film catastrophe montrant une fillette qui s'éveille au milieu d'un désert au sol craquelé avant d'être rattrapée par des vagues déchaînées. Le ton est donné, seul un accord ambitieux permettra d'échapper à de telles perspectives.
France Culture, de cause à effet, Aurélie Luneau.
C'était donc la voix du Premier ministre danois que nous avons entendu dans ce document d'archives. Des COP dans lesquelles vous avez œuvré et l'un et l'autre, Laurence Toubiana, Emmanuel Guérin. Vous parlez du climat comme un sport de combat, on va le comprendre hein, justement, et tenter d'en tirer des leçons pour éviter les erreurs du passé. Il faut se nourrir de ses réussites. Alors pourquoi tout d'abord peut-être cette date dans le récit de votre livre? Vous faites vraiment démarrer le livre à cette COP de Copenhague en 2009.
Bon, parce que pour nous, c'était un vrai moment fondateur et que ça a été un moment particulièrement difficile à vivre parce que cette COP de Copenhague s'est terminée comme un échec. En tout cas, c'est comme ça que on l'a vécu. Ce qu'on voulait montrer à travers ce livre, c'est que même dans les périodes de creux, même dans les périodes de trous, quand on est déprimé à la suite d'un échec, on peut se relever. Cette COP de Copenhague, elle a été particulièrement difficile à vivre parce que ce qu'on a observé, c'est un véritable clash des souverainetés. Clash des souverainetés, notamment entre les États-Unis et la Chine. Et on a vu que la Chine, à l'époque, n'était pas en mesure de s'engager. La COP de Copenhague, elle s'est jouée dans un moment très particulier. C'est un moment où la Chine venait de dépasser les États-Unis comme premier émetteur mondial de gaz à effet de serre. Très clairement, l'objectif de la COP à Copenhague en 2009, c'était d'obtenir pour la première fois un objectif de réduction d'émissions de la part des Chinois. Et c'est malheureusement pas ça qui s'est passé. Mais ce qu'on raconte juste après, c'est que la Chine, dès 2010, au lieu d'en tirer les leçons qu'elle ne fera rien sur le climat, au contraire, elle accélère. Ce qu'on dit dans une formule, mais qu'on pense tout à fait être vrai, c'est que d'une certaine manière, la Chine, en 2010, fait le Green Deal européen 10 ans avant le Green Deal européen.
Est-ce qu'on peut dire qu'elle ne pouvait pas non plus en rester à cette Chine, image d'un pays qui a tout fait capoter? Il y avait aussi peut-être un enjeu d'image très important, y compris dans sa population?
Oui, effectivement. Enfin, sinon dans sa population, au plan international, où la Chine, oui, depuis longtemps veut s'affirmer comme une puissance mondiale, influente, et c'est encore plus vrai, évidemment, ces jours-ci. Donc oui, il y avait sauver l'honneur, sauver la face, et en même temps tirer les leçons. C'est assez extraordinaire, d'ailleurs, la façon dont tout s'organise de façon très, très déterminée sur tous les plans. C'est toute la chaîne de valeur de la transition verte qui est lancée avec d'immenses chantiers d'investissement dès 2010. Et c'est vrai que c'est à la fois, oui, prendre un leadership ou essayer de le conquérir, en voyant aussi que finalement, et ça, ça a été un jugement tout à fait formidable, ça allait arriver. Et ils ont une capacité d'anticipation et de long terme. Bon, dans la Chine, évidemment, on le reconnaît, c'est sa façon aussi de travailler avec des projets pilotes, des investissements et une cohérence politique. Donc oui, il y a cet aspect-là. Et puis en même temps, ce qui nous a beaucoup aidé au fond pour préparer l'accord de Paris dans lequel Emmanuel et moi, on a travaillé, c'est d'apprendre des erreurs. Pourquoi les COP sont importantes? C'est parce que c'est quand même un moment crucial où tous ces intérêts nationaux se confrontent, se heurtent ou éventuellement peuvent se dépasser. Et on voit quelles sont les méthodes vraiment qui ne peuvent pas marcher. Et pour nous, ça a été une leçon extraordinaire, très difficile à vivre, ça c'est vrai, parce que c'était la première fois qu'on essayait d'engager tous les pays à prendre un engagement, ce qui n'a pas été vraiment, vraiment le cas. Mais qu'en même temps, c'est au fond, pour avoir commencé du mauvais côté des choses, avoir commencé par se dire, si les grands pays s'entendent, au fond ça va suffire. Et s'agissant du climat, si on perd, je dirais, la boussole morale, le fait que les victimes, c'est pas les grands pays en premier lieu, c'est les plus petits, les moins développés. Si on perd cette boussole morale, on n'arrive pas à un accord ambitieux. Et on a tout reconstruit en préparant Paris à partir de cette leçon, c'est-à-dire il faut pas commencer par les grands parce que les grands pays, le club des grands pays, ça ne marche jamais parce qu'ils s'entendent pour en faire quand même le moins possible.
Et puis, on peut mentionner, mais on ne pourra pas rentrer dans tous les détails, que cette COP à Copenhague, c'est aussi une occasion manquée, hein, dans ce contexte de crise financière de 2008-2009, de relancer justement l'économie par l'action climatique. Donc, tenir compte des erreurs, et puis se dire aussi que la réussite de ces conférences des partis tient beaucoup à des personnalités, des stratégies, des points de départ, des choix aussi de départ. On aura l'occasion de mentionner différentes personnalités, hein, dans l'émission, à qui l'on doit de belles avancées. Peut-être rappelez-nous, pour que les auditeurs comprennent bien, quelles étaient vos fonctions, hein, enfin, depuis Copenhague jusqu'à Paris, pour prendre la mesure de ce que vous avez pu vivre dans les coulisses, hein, et l'un et l'autre. Laurence Toubiana.
Ben, c'est-à-dire qu'on a eu très différents, et au fond, on l'explique dans le livre, une fois qu'on tombe dans le climat, on n'en sort pas. Alors après, on prend différentes fonctions en fonction des opportunités, en réalité. À l'époque, à Copenhague, J'étais la deuxième directrice de la délégation française, puisqu'à ce moment-là, je faisais un passage au ministère des Affaires étrangères déjà. Emmanuel, lui, était dans l'équipe de la Convention du climat, dans l'équipe de préparation de l'accord lui-même, auprès de Michael Coutaillard, qui avait été le secrétaire exécutif de cette Convention climat et qui avait été chargé de présider la négociation de l'accord global. Donc, on avait deux rôles assez différents. Moi, j'étais France, Emmanuel était Nations Unies. Mmh. Mais effectivement, dans le temps, tout a bougé.
Oui, moi, dès 2009 et la COP de Copenhague, j'avais 25 ans à l'époque. Mmh. C'était la première fois que je tentais d'écrire le texte d'un accord. À Paris, en 2015, j'en avais 30. Mais c'était une vraie revanche personnelle parce que j'ai vécu Copenhague comme un échec personnel parce que le texte qu'on avait écrit à quelques-uns a été rejeté. Et donc c'était une belle victoire sur le plan personnel que 6 ans plus tard, cette fois-ci, ça passe.
Alors retour en 2015, COP21 à Paris, un marathon éprouvant.
C'est un jour historique que nous vivons. La France accueille 150 chefs d'État et de gouvernement, des milliers de délégués venus de tous les continents. Jamais une conférence n'avait accueilli autant d'autorités venues d'autant de pays. Mais jamais, je dis bien jamais, l'enjeu d'une réunion internationale n'avait été aussi élevé. Car il s'agit de l'avenir de la planète, de l'avenir de la vie. Votre présence soulève un immense espoir que nous n'avons pas le droit de décevoir, car ce sont des peuples et des milliards d'êtres humains qui ont le regard porté sur nous. Nous devons laisser à nos enfants une planète viable.
Extrait du discours d'ouverture de la COP21 par le président François Hollande. Donc, c'était le 30 novembre 2015. Aéroport du Bourget, complexe d'entrepôts de 18 hectares, 10 000 délégués, 14 000 observateurs. Laurence Toubiana, quand vous avez été appelée par Laurent Fabius, qui cherchait quelqu'un de compétent en la matière, quelle a été votre première réaction?
D'abord, un grand moment d'interrogation. Je connaissais les difficultés. J'étais à ce moment-là professeure à l'université à Columbia. J'ai une petite phrase que je me répète toujours devant un obstacle. Et je me dis, la peur tue l'esprit. C'est une formule empruntée du grand roman de science-fiction Dune de Franz Herbert. Et je me suis dit, est-ce que j'ai le courage d'y aller et de peut-être de me reconfronter à un échec? Encore une fois. Et ça a été le déclic. Je dis, bon, en même temps, je voulais pas que ça rate. J'avais beaucoup réfléchi, y compris sur les solutions déjà, hein, pour ne pas rater. Donc, c'était pas pour moi un tableau vierge, hein, une page blanche, y compris dans la prépa, dans la réflexion en 2014. J'avais beaucoup, avec mon équipe à l'IDRI, l'institut que j'avais contribué à créer, on avait réfléchi au comment faire. Et donc, j'avais des idées. La question, je me disais, est-ce qu'un gouvernement, je ne suis pas dans ce gouvernement, j'arrive, est-ce que je vais pouvoir imposer mes idées face à une une administration, une diplomatie dont je ne fais pas partie. Je ne suis pas une diplomate. Et donc, j'ai hésité, évidemment, j'ai beaucoup hésité, j'ai beaucoup discuté avec Laurent Fabius et son directeur de cabinet, et puis finalement, j'ai accepté en me disant, on verra bien, et il faut risquer, il faut prendre les risques, et puis après tout, on ne peut pas reculer devant un tel enjeu.
Ah oui, alors sans refaire complètement ce qui s'est passé dans les coulisses et pour vous, dans ce marathon, quatre piliers quand même, l'accord universel, les contributions nationales, les contributions des acteurs non étatiques, le financement, je renvoie nos auditeurs à votre livre où tout est très bien expliqué et éclairant. La force peut-être par rapport à Copenhague, Copenhague avait impliqué les chefs d'État pour la première fois d'ailleurs, mais à la toute fin. Là, il y a décision pour Paris de les impliquer dès le début et puis de jouer aussi sur les allers-retours entre ce que vous appelez le « dedans » et le dehors. Expliquez-nous peut-être, et quand on parlait de figures aussi emblématiques qui ont pu jouer, on peut mentionner Christiana Figueres, qui était alors la secrétaire exécutive de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques.
Absolument. Et il y a plusieurs leçons qu'on avait tirées de l'échec de Copenhague. La première, comme le rappelait Laurence, c'est qu'on a voulu être une présidence de COP très différente de la présidence danoise, notamment en étant très clair sur le fait que ça n'était pas la logique de club entre les gros pays puissants, mais le multilatéralisme en donnant toute leur place aux pays les moins avancés, aux petits États insulaires et en développement, qu'on serait capable d'obtenir un accord vraiment ambitieux. Et puis surtout, ce qui a été vraiment très très important pour nous, c'était une conviction qu'on porte jusqu'à aujourd'hui, c'est que si on négocie uniquement entre gouvernements, on est presque inévitablement sur le plus petit dénominateur commun. Et donc ce qu'on a voulu faire au moment de la COP à Paris, c'était mobiliser très fortement les maires, les gouverneurs, les présidents de région, les entreprises, les investisseurs, et de les utiliser pour qu'ils envoient très clairement le signal que cette grande transformation écologique n'était pas que nécessaire, ça c'est le discours qui vient de la science, mais qu'elle était aussi à la fois en marche, c'est ce à quoi on a essayé de donner le plus de visibilité possible, et puis que cette transformation écologique peut être source d'opportunités économiques, peut être source de profit. Donc au fond, ce qu'on a essayé de faire, c'est de desserrer l'étau politique dans lequel on était, dans la négociation uniquement entre les gouvernements, essayer d'échapper au clash des souverainetés en mettant en avant les endroits dans la société, y compris à travers la mobilisation citoyenne, où on voyait qu'il y avait de l'énergie qui nous permettrait de dépasser ces blocages. Et c'est cette méthode qui marche encore jusqu'à aujourd'hui.
Avec d'âpres discussions. Alors, jusqu'au dernier moment, et je vous donne la parole, Laurence Toubiana, effectivement, parce que dans le livre, vous racontez ce qui s'est passé jusqu'au dernier moment, le revirement des Chinois à la dernière minute, finalement. Bon, voilà, on a pu surmonter ce revirement. Mais juste avant, vous parliez aussi des petits, enfin, de ceux qu'on considère les plus petits, mais qui sont souvent plus facilement dans une solidarité. Quand vous êtes devant le groupe des pays en développement, Venezuela, Cuba, Bolivie, Irak, Iran, Arabie Saoudite, Soudan, Malaisie, et que vous leur présentez, voilà, à quelques heures de la fin de cette COP, les acquis, mais aussi des lignes rouges franchies. Et là, racontez-nous ce qui se passe, parce que c'est quand même d'une intensité et aussi d'une une belle réaction solidaire. Laurence.
Oui, c'est un souvenir incroyable. Donc, j'avais très peu dormi depuis, au fond, plus de 10 jours. Et particulièrement la dernière nuit, on n'avait pas dormi du tout puisqu'il fallait tout finir. Et il devait être 5 heures du matin et je voulais, avec mon équipe, qu'on prévienne chaque groupe de négociation de ce qui allait, puisqu'on devait diffuser le texte à tout le monde en même temps. Mais il fallait quand même prévenir pour que une de nos règles était quand même d'être transparent, de ne pas avoir de surprise pour que il n'y ait pas de réaction de panique en dernière minute, ce qui souvent, parfois juste pour une incompréhension, peut bloquer beaucoup les choses. Et donc, j'explique à tout ce groupe qui sont les pays dits du même esprit, c'est-à-dire quand même les pays qui sont plutôt des bloqueurs, parce que en partie par nationalisme ou aussi parce que ce sont des pays exportateurs de pétrole, comme le Venezuela par exemple.
Oui.
Je leur explique ce qu'ils vont aimer et ce qu'ils vont détester dans cet accord. Et après ce premier exposé, un silence énorme s'installe, extrêmement pesant, pendant plusieurs minutes. Je reprends la parole et je dis, bon, c'est la meilleure chose qu'on puisse trouver, c'est le meilleur équilibre. Si ce n'est pas celui-là, c'est impossible et donc on n'aura pas d'accord à Paris. Et je m'arrête de nouveau et un énorme silence s'installe encore une fois pendant très long, très très long, très épais. Et là, au bout d'un petit moment, je craque.
Et vous fondez en larmes.
Je pleure d'épuisement et je fonds en larmes. Et là, un truc extraordinaire que je n'oublierai jamais de ma vie, évidemment. Ils se lèvent tous en suivant l'ambassadrice du Venezuela, qui a été une dure à Copenhague et qui était une femme très forte, très affirmée. Et elle vient, elle me prend dans ses bras et tout le monde se rassemble autour d'elle pour dire, écoute, on te fait confiance, on va signer, on a confiance en toi. Et ça, c'était un moment émotionnel incroyable, y compris l'ambassadeur de l'Iran me disant « Bon, je ne peux pas vous prendre dans mes bras, mais j'y pense. » Et c'était magnifique. Et c'était bon pour dire, au fond, tout de même, la confiance interpersonnelle, le fait d'avoir été transparent, le fait de ne pas jouer, disons, la supériorité d'un pays par rapport à un autre, et ben ça crée quand même les bases de la solidarité. Et c'est ça que je trouve qu'on oublie terriblement aujourd'hui. On pense aux grands pays, aux plus forts, au lieu de se dire on a quand même une communauté citoyenne dans le monde qui existe. Et en tout cas, elle s'est révélée à ce moment-là. Et je l'oublierai évidemment jamais.
Bien sûr, beaucoup de tensions, d'émotions. Comme vous l'écrivez, le succès est toujours collectif dans une COP, mais la défaite est orpheline. En tout cas, le 12 décembre 2015 à 19h, l'accord est adopté.
L'accord de Paris pour le climat est accepté.
Le geste est triomphal. À 19h30, Laurent Fabius valide l'accord sur le climat après 13 jours de négociations. En assemblée plénière, c'est l'ovation. L'accord est historique.
Le projet d'accord proposé est différencié, juste, durable, dynamique, équilibré et juridiquement contraignant.
Là aussi, hein, Laurence Toubiana, Emmanuel Guérin, un moment très fort, 10 ans après l'accord de Paris. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous répondent, bon ben 10 ans après, cet accord, aujourd'hui, à quoi sert-il? Il n'est pas contraignant, nous vivons une surenchère de promesses en lendemain, la conjoncture internationale n'engage pas une coopération, un multilatéralisme. Quelle est votre analyse à vous? Et finalement, est-ce que au bout de 10 ans, on a quand même des acquis?
Oui, bien sûr, il y a des acquis très importants, très très importants même, à plusieurs niveaux. Avant la négociation de l'accord de Paris, on était sur des projections de hausse de température qui étaient au-delà de 4 degrés. Après la négociation de l'accord de Paris, on était sur des projections de hausse de température en dessous de 3 degrés, hein, environ de 2,6 degrés. Donc déjà, sur le plan des impacts liés à la crise climatique, c'est un projet très net. Et puis, il y a eu des progrès très impressionnants sur le plan de la baisse du coût de l'énergie solaire, la baisse du coût de l'énergie éolienne, la baisse du coût des batteries. Et puis, un chiffre qu'on aime bien donner, c'est que les émissions mondiales de gaz à effet de serre, entre 2005 et 2015, elles avaient augmenté de près de 20%, 18%. Et entre 2015 et 2025, aujourd'hui, ces émissions mondiales de gaz à effet de serre, elles ont augmenté d'environ 2%, de 1,8%. Donc, bien sûr, tout ça n'est pas suffisant, hein, puisqu'il faut maintenant que ces émissions diminuent et qu'elles diminuent très vite pour être capable de tenir l'objectif de zéro émission en 2050. Donc, bon, on le dit d'autant plus clairement et d'autant plus honnêtement que on a négocié cet accord de Paris qu'il faut être capable d'aller beaucoup plus vite et de changer pour partie la façon dont on organise cet effort international. Mais en même temps, c'est particulièrement important de défendre l'acquis. Hein, il faut construire sur cette base, il faut trouver des manières d'accélérer. Mais les progrès ont été importants et c'est ça qu'il s'agit de défendre aujourd'hui, notamment contre les attaques de Donald Trump.
Eh oui, alors vous restez bien avec nous puisque dans un instant, bien sûr, nous allons poursuivre et regarder du côté de la COP30 et se poser la question de ce que l'on peut en attendre à ce stade et ce qu'il faudrait mettre en place. Mais auparavant, je vous propose d'écouter un de vos choix musicaux, Luigi Luna, je crois que c'est votre choix, Laurence Toubiana. Bagno de Foyas, c'est ça? Sans prétention de bien le prononcer, puisque c'est du portugais, que je n'ai pas fait de portugais.
Je crois que c'est le choix d'Emmanuel, mais il est très bon.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar. Andei a cidade inteira, mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí sem te encontrar. Vou pedir a Oxalá, Oxalá quem guia, Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, 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 tanta volta pra nenhuma resposta. Nenhuma resposta, mas um punhado de folhas sagradas pra me curar, pra me afastar de todo mal. Oh, para raio, bete branca, aça peixe, abre caminho, patchouli. Para raio, bete branca, aça peixe, abre caminho.
Bagno de Foyas, chanté par Luigi Luna. C'est le choix musical d'Emmanuel Guérin et nous poursuivons De cause à effet, le magazine de l'environnement sur France Culture. Nous sommes en direct dans les coulisses des COP de Copenhague en 2009 à Belém en 2025. Qui tire les ficelles? Comment se décide notre avenir? À l'occasion de la COP30 au Brésil, organisée du 10 au 21 novembre à Belém et 10 ans après l'accord de Paris obtenu en 2015, analyse de nos deux invités sur les acquis, de ce qu'il reste à faire aussi dans la lutte contre le réchauffement climatique. Avec nous depuis le Brésil, Laurence Toubiana, présidente et directrice générale de la Fondation européenne pour le climat et envoyée spéciale Europe de la présidence de la COP30. Emmanuel Guérin, expert géopolitique du changement climatique à la Fondation européenne pour le climat et à l'Institut brésilien ICS. Tous les deux, co-auteurs du livre paru chez Albin Michel et qui s'intitule « Le climat est un sport de combat ».
Pour ce qui est du pétrole, nous avons beaucoup de réserves. Nous avons plus de gisements de gaz et de pétrole que n'importe quel autre pays. Et si vous ajoutez le charbon, eh bien, nous avons plus de réserves d'énergie que les autres pays. Et le charbon, c'est magnifique, c'est propre. On peut faire avec le charbon aujourd'hui des choses qui étaient inimaginables il y a des décennies. Et donc, pour ce qui est du charbon, moi je ne dis pas le charbon, je dis le charbon propre, le beau charbon. En tout cas, nous sommes prêts à aider tous les pays à leur fournir de l'énergie propre si vous en avez besoin. Et nous sommes en train d'exporter de l'énergie aux quatre coins du monde. Nous sommes le plus grand exportateur. Aux États-Unis, nous sommes en faveur du commerce. Nous sommes prêts à faire des affaires avec tous les pays. Nous souhaitons aider les nations. Nous allons aider vos pays.
Un nouvel extrait du discours de Donald Trump à la tribune de l'ONU, diffusé sur France 24 le 23 septembre 2025. Dans ce contexte difficile, on l'a bien brossé. Que peut-on attendre de cette COP30 à Belém, Laurence Toubiana et Emmanuel Guérin? Une COP sous le signe de la COP de l'adaptation. Alors, est-ce que c'est un bon signal? Est-ce que nous ne devrions pas plutôt engager la COP de la transition vers un monde sans fossiles? Dites-nous comment vous percevez peut-être déjà ce démarrage et puis ce qu'il faudrait faire, hein, ce que vous attendez, ce que vous espérez de vos voeux.
Alors, la première chose, c'est que cette COP doit montrer que peut-être que Donald Trump veut aller dans une certaine direction, qui est de regarder vers le passé, et te dise, ben, nous, ça ne nous intéresse pas, cette direction-là, et qu'il y ait une solidarité très claire, une affirmation très claire, des pays qui disent on continue sans prêter attention à ce que vous voulez faire à partir des États-Unis. Ça, c'est la première chose quand même très importante. Parce qu'encore une fois, comme on disait tout à l'heure, c'est la première fois qu'il y a une attaque aussi agressive contre ces accords internationaux. Rubio, le ministre des Affaires étrangères américain, a dit récemment on a réussi à tuer la négociation sur la décarbonation du transport maritime qui a eu lieu il y a quelques semaines. Ils ont réussi à faire repousser la décision qui devait avoir lieu et on aurait dû avoir une majorité sans problème. Et donc maintenant, le nouvel ennemi, c'est l'accord de Paris. Donc quand même, le premier résultat, ça n'a pas l'air tellement important, mais c'est central que le monde se dise on ne s'intéresse pas au message des Américains, on continue. Deuxième chose, c'est quand même très important de parler de résilience et d'adaptation. Pourquoi ? Parce que malheureusement, peut-être même encore à Paris, on avait l'idée que l'impact du changement climatique, c'était pour demain. Et évidemment, ce n'était pas vrai. D'ailleurs, plus ça va, plus on se rend compte que le phénomène s'accélère. Et aujourd'hui, les dégâts du climat, qui sont d'ailleurs difficiles à mesurer, mais c'est au moins de ce que disent en tout cas les sociétés d'assurance, c'est au moins 400 milliards chaque année. Et ça fait maintenant, depuis plusieurs années, qu'on perd non seulement des vies humaines, de plus en plus, mais aussi c'est la destruction parfois de très très large de certaines économies. Regardez ce qui vient de se passer à la Jamaïque, mais ça a été le cas de tous les événements qui se sont ne serait-ce qu'en 2025. Un bon exemple, c'est l'évaluation par la Banque européenne, centrale, qui a estimé à 43 milliards de pertes d'euros juste ce qui s'est passé pendant l'été 2025 pour l'Europe. Donc, c'est considérable. Oui. Donc, c'est normal qu'on parle de résilience et d'adaptation parce que souvent, on ne sait pas comment faire. Et quand, par exemple, on reconstruit, comme en Allemagne ou au Pakistan, les maisons, les installations au même endroit sans prendre en compte le fait que les inondations, elles vont revenir, c'est inévitable. Là, on se dit que c'est très urgent de parler de résilience, en particulier parce qu'il y a une grande distance entre ce qui est assuré aujourd'hui, il y a au fond peu de l'économie mondiale qui est assurée, et surtout, et je terminerai là, le fait que aujourd'hui les compagnies d'assurance disent on ne peut plus assurer aujourd'hui les risques climatiques et on recule de plus en plus ce qu'on accepte d'assurer. Or ça, c'est un danger majeur parce qu'une économie mondiale sans assurance, pour l'instant, on ne sait pas comment faire.
Et comme vous le dites, oui, Emmanuel Guérin, allez-y. J'allais dire que les milieux financiers, les assureurs se rendent grandement compte de la facture à payer qui sera beaucoup plus lourde que tout ce qui sera mis en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique.
Absolument, absolument. Pour compléter ce que vient de dire Laurence, il y a, je crois, trois choses très précises, très concrètes qu'on peut attendre de cette COP et qu'il va falloir regarder. La première sur le financement de l'adaptation, et parce que on est dans un contexte économique où l'espace fiscal est incroyablement limité et qu'il faut trouver des ressources en subvention pour soutenir les actions d'adaptation dans les pays en développement. C'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui pour la taxation internationale et en particulier la taxation internationale des billets d'avion en classe affaires, la taxation internationale des jets privés pour y trouver là les ressources du financement de l'adaptation. Et on voit ça vraiment comme un moyen d'appliquer très clairement le principe pollueur-payeur et de remettre dans cette discussion ensemble la justice climatique et la justice fiscale, hein, puisque le pourcent des plus riches émet aujourd'hui autant que les 50% qui sont en bas de l'échelle de revenus. C'est un combat particulièrement...
Et petite précision peut-être pour nos auditeurs, Emmanuel Guérin, vous parlez des secteurs aériens. C'est vrai que vous mentionnez dans votre livre les secteurs maritimes et aériens qui, beaucoup d'auditeurs ne le savent pas, ne supportent pas finalement de taxation, des secteurs qui représentent 4,5% des émissions de CO2. Alors le secteur maritime semble avancer sur le sujet, mais le secteur aérien se borne pour l'instant à acheter surtout des crédits carbone et n'investit que très faiblement dans la décarbonation de ses avions, d'où la solution de la taxation internationale.
Absolument. Et bon, ce qui est particulièrement injuste et absurde, c'est que quand vous utilisez votre voiture pour y mettre de l'essence, vous payez des taxes sur l'essence. Le kérosène qui est utilisé dans les avions, il n'est pas taxé. Donc, encore une fois, on a fait attention dans cette proposition de taxation internationale de ne pas pénaliser les classes moyennes parce qu'on ne propose pas à ce stade de taxer les billets en classe économique, hein, c'était important pour nous. En revanche, pour ce qui est des billets en classe affaires et pour ce qui est des jets privés, ça paraît vraiment l'évidence qu'on arrive à y trouver là une partie des ressources financières pour financer l'adaptation.
Oui, il faut en plus reconnaître, ce qui paraît peut-être étonnant dans un moment où il n'y a pas vraiment une croissance économique mondiale très forte, c'est que ces billets classe affaires, première classe et jets privés ont explosé depuis 2021, 50% d'augmentation. Donc, il y a quand même vraiment un problème de justice. Et ça se sent très bien. Il y a beaucoup de citoyens aujourd'hui dans le monde qui pensent qu'ils payent pour les émissions des plus riches, ce qui, c'est vrai, se constate. Oxfam, l'ONG, a publié des informations intéressantes. En une heure et demie, les 50 milliardaires les plus riches de la planète consomment autant qu'une personne de la classe moyenne mondiale en toute sa vie. Oui. Donc, il y a vraiment un problème là, aujourd'hui, de modèle de consommation et de concentration, évidemment, de la richesse.
Donc, être sur le volet social, l'équité, vous proposez aussi d'imposer des taxes carbone aux frontières pour compter les émissions de CO2 des produits importés. Elles devraient être appliquées, d'ailleurs, en Europe en 2026. Vous parlez aussi, c'est important, du méthane. Une priorité pour la France et l'Europe, peut-être, cette question, parce que le méthane a un pouvoir de réchauffement beaucoup plus puissant que le CO2.
Exactement. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'il va falloir regarder très attentivement et réduire les émissions de méthane. Ça doit être absolument la priorité puisque, comme vous l'avez rappelé, le pouvoir de réchauffement, en tout cas à court terme, est près de 60 fois supérieur à celui des émissions de dioxyde de carbone. Alors les émissions de méthane, elles viennent de trois sources en particulier, hein, les énergies fossiles, l'agriculture, et le bétail, et puis les déchets.
Les déchets.
Alors, ça fait vraiment très... Les déchets, oui. Ça fait vraiment très longtemps, notamment dans le secteur pétrolier et gazier, qu'on discute de cette réduction des émissions de méthane, que des engagements volontaires ont été pris, que pour la plupart, ils ne sont pas tenus. Donc, vraiment, ce qui est très important pour nous, c'est de passer des engagements volontaires à la réglementation. C'est ce qu'on voit en Europe, c'est ce qu'on voit en Chine, c'est ce qu'on voit dans d'autres endroits dans le monde. Mais vraiment, pour appuyer le pied sur la pédale de frein, aujourd'hui réduire les émissions de méthane qui permettent de réduire le réchauffement climatique de 0,5 degrés d'ici à la fin du siècle. Donc c'est vraiment très très important. C'est une priorité. Puis l'autre, troisième et dernière priorité, c'est de absolument tout faire pour éviter la déforestation de la forêt primaire. Hein, puisque, bon, replanter des arbres, c'est une chose, mais du point de vue de l'absorption des émissions de dioxyde de carbone comme de la protection de la biodiversité, ce qu'il faut vraiment faire en priorité, c'est éviter la déforestation de la forêt primaire. Et là, on va voir la création d'un fonds pour ça, dans lequel aussi bien le Brésil que l'Indonésie ont proposé de mettre 1 milliard de dollars.
Alors, c'est vrai que le Brésil pourrait générer une émission en soi. Le président Lula sera quand même un peu sur la sellette, même si la déforestation, il a pris des engagements. Il y a quand même la question du Cerrado, hein, cette savane brésilienne qui est une sorte de forêt inversée et qui mériterait bien de rentrer dans les accords de protection. Et puis, faut-il le rappeler, Lula qui a donné son feu vert à un vaste projet pétrolier à environ 500, pétrolier offshore, hein, à environ 500 km de l'embouchure de l'Amazone. Tout cela vient dans ce contexte, hein, de l'ouverture de la COP30. Il nous reste quelques minutes. Vous posez aussi la question de la géo-ingénierie. C'est intéressant puisque c'est un sujet qui revient ô combien comme porteur de solutions. Vous demandez un moratoire international et en posant la question de la gouvernance aussi de la géo-ingénierie, et une question qui doit être posée d'urgence selon vous.
Oui, alors ce terme de géo-ingénierie recouvre plusieurs choses. Hein. Il recouvre d'une part l'amélioration de la capture de carbone par la nature, par exemple en développant des méthodes agricoles qui permettent d'augmenter la capacité d'absorption des sols. Hein. Ça, c'est déjà quelque chose de toute façon très positif. Il y a aussi d'autres choses plus avancées comme d'absorber directement le carbone de l'atmosphère pour le stocker, notamment dans des roches. Bon, ça, c'est des solutions. Il y en a qui sont très coûteuses, il y en a au contraire qui ne le sont pas. Mais il y a surtout quelque chose qui se développe malheureusement très vite, c'est un enthousiasme, un emballement pour la projection de particules de soufre dans l'atmosphère, parce qu'au fond, pour reproduire, si je puis dire, une grande éruption volcanique, comme le Pinatubo l'a été il y a quelques années, puisque ça fait une espèce de couche de protection, évidemment, de parapluie, de poussière, vis-à-vis du rayonnement solaire. Le problème est que, alors ça coûte pas très cher, parce que, au fond, il faut faire tourner des avions tout autour de la planète sans arrêt pour projeter ces particules, mais on ne sait pas du tout, on n'a pas pu mesurer l'impact que cela peut avoir. Alors, on voit déjà un impact important, c'est que ces particules, évidemment, elles retombent. Où est-ce qu'elles retombent? Majoritairement, puisque c'est la configuration de la planète dans les océans, et qu'elles contribuent à acidifier encore dans les océans. Avec un problème d'ailleurs paradoxal, c'est que plus les océans sont acides, moins ils sont capables d'absorber le carbone. Et c'est le grand régulateur quand même du climat aujourd'hui dans la planète, ce sont les océans. Donc, premier problème. Deuxième problème, quand on arrête, parce que pendant ce temps-là, évidemment, on peut penser malheureusement que les émissions elles vont continuer à augmenter, parce que c'est quand même une grande tentation de dire, si on baisse les températures parce qu'il y a cette espèce de parapluie, on peut peut-être continuer à faire comme avant. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si les émissions continuent, la concentration de gaz à effet de serre continue, ça veut dire que le jour où on arrête, d'abord, il y a tous les effets, tous les autres effets. J'ai parlé de l'acidification. Il y a l'impact sur les écosystèmes, l'adaptation justement de tous les écosystèmes à cette composition très différente de l'atmosphère. Et puis, le jour où on arrête, eh bien, on a une explosion des températures immédiatement. Donc, il y a quelque chose d'apprenti sorcier. Oui. C'est pour cela qu'en plus, parfois, on pourrait penser qu'un pays tout seul, hein, un grand pays, pourrait le faire. Parce que c'est effectivement, et il y a aujourd'hui des entreprises qui proposent des crédits de... Alors là, j'ai vu ça, c'était assez étonnant, des crédits de refroidissement,
oui.
Comme on a aujourd'hui mis en place des crédits carbone. Et donc, c'est un peu l'idée de fuite en avant. Et c'est pour ça qu'on plaide en tout cas pour qu'il y ait une transparence de la recherche. Ça, c'est très important. Qui finance quoi? Qui est derrière ces projets? Et comment est-ce qu'on peut avoir une entente mondiale pour au moins réguler cette activité s'il fallait un jour l'utiliser? Mais il faudrait quand même plutôt mettre tout l'effort, comme l'a dit Emmanuel, sur les émissions de méthane et sur les autres solutions qui sont en particulier la réforme des systèmes agricoles. Parce que cela, il pourrait absorber 4 fois plus de carbone qu'ils ne le font aujourd'hui.
Et oui, donc tout cela est sur la table désormais. C'est aussi une bataille pour la démocratie et les citoyens qui en sont les meilleurs garants. Je sais qu'il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de sujets à aborder avec vous. On vous souhaite le meilleur à tous les deux. Laurence Toubiana et Emmanuel Guérin, merci beaucoup. Je vous rends à votre agenda
merci
bien rempli. Et je rappelle le titre de votre livre, Le climat est un sport de combat. Un livre indispensable à lire et paru chez Albin Michel. Merci aussi à Charlotte Davio-Leclerc pour son aide précieuse dans cette logistique entre la France et le Brésil. En direct, je le rappelle, bibliographie, infos, podcasts sont à votre disposition sur notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet.